L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici sur le chemin de l'évangile pour le couple. Et cette fois-ci, nous allons passer un peu une nouvelle étape. Nous allons entamer une nouvelle série d'émissions où on va rentrer davantage dans la concrétisation dans la vie conjugale, familiale, de l'incarnation de cet évangile pour le couple dans des questions très concrètes. Entre guillemets, on pourrait dire, allez, on va sortir un peu la boîte à outils. Certains parmi vous invités à dire, ok, on a commencé à mieux comprendre combien c'est important de faire venir vraiment le Christ et l'Esprit Saint au cœur de notre vie conjugale et familiale, de le fonder complètement sur cette réalité. Mais concrètement, comment on peut faire Donc, on va essayer d'aborder cette question et notamment commencer par deux émissions sur l'importance de la prière dans la vie de couple et la vie de famille. Et d'abord, dans cette première émission, sur le pourquoi de la prière, Maud. Et pour cela, on va introduire ce temps avec l'évangile de Matthieu au chapitre 18, avec ces deux versets. Je vous dis que si deux se mettent d'accord ici sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
J'aime bien ces quelques phrases sur la prière parce qu'on dirait que le Christ s'est exprimé spécialement pour les couples. C'est vrai que ça s'adresse à tous, mais quand on entend deux ou trois sont réunis, bien sûr, les deux, ben, c'est déjà le couple. Donc nous sommes déjà la plus petite entité d'église qui puisse exister, c'est-à-dire un couple. Et voilà que si nous sommes accordés, alors le Père va pouvoir exaucer notre prière. Et je pense que c'est vraiment un des plus beaux ministères, si je puis dire, du couple qui nous est confié. C'est justement de pouvoir se confier dans la prière et confier ensemble à Dieu des choses dans la prière. Donc c'est vraiment là la première chose qui nous vient en lisant ces quelques versets. Voilà, quand vous êtes deux ou trois à demander quelque chose, mon Père vous l'accordera.
Et je crois que quand tu insistes là-dessus, Maud, tu rejoins vraiment la réalité du sacrement de mariage. C'est-à-dire que ce qui est exprimé dans la prière par cette parole, cet enseignement de Jésus, ça rejoint le cœur du sacrement de mariage. Parce que par le sacrement de mariage, nous sommes accordés dans l'amour, parce que nous sommes choisis parce que nous nous aimons et que nous avons décidé, nous nous engageons à nous accorder dans l'amour, et que si jamais nous avons, je dirais, uni nos vies au trait du sacrement de mariage, c'est que nous sommes réunis, pas simplement au nom de notre amour, mais réunis en son nom, au nom du Christ, au nom de notre foi. Et donc on voit bien qu'il y a entre la prière, l'expérience de la prière, et l'expérience du sacrement de mariage, un profond lien. Voilà. Et je crois que, voilà, il nous faut justement avancer dans cette double promesse. Si nous sommes unis dans la prière, le Père répond à nos demandes. Il est présent au milieu de nous. Et pourtant, c'est bien notre expérience, c'est une expérience tellement difficile que selon nos différentes expériences, nos prières souvent sont si peu exaucées. Alors, pourquoi c'est vrai qu'à un moment on est un peu désespéré parce qu'on dit mais j'ai prié, mais rien n'est venu, rien ne s'est réalisé. Alors pourquoi?
Voilà, ça c'est une question qui nous a souvent taraudé. Et on est allé chercher dans la parole tout ce qu'on trouvait par rapport à cette efficacité de la prière.
En laquelle une inefficacité.
Voilà, ou une inefficacité. Pourtant, c'est bien promis. Donc, bah, Christ nous dit que notre prière doit être efficace. Oh, parfois, elle est inefficace.
Est-ce que Christ aurait dit des bêtises?
Voilà. Alors, on est allé regarder.
Rassure-moi.
Je peux te rassurer, mais en tout cas, on a surtout lu, tu te rappelles, c'est ce passage de Jésus qui se fâche contre les disciples, mais vraiment, il se met en colère.
J'adore.
Parce que les disciples, les apôtres sont partis pour prier à partir en mission, puis ils voulaient guérir un jeune garçon. Et ils ont prié pour intercéder pour ce garçon. Et puis, ça n'a rien passé. Alors, tout dépité, sont venus voir Jésus en disant, écoute, on n'y arrive pas, quoi. Donc, c'est déjà dire que c'est extraordinaire parce qu'ils étaient étonnés que ça n'arrive pas. Alors, donc, ça voulait dire que, en général, quand même, ça arrivait. Donc, cette fois-ci, ça n'est pas arrivé. Et ils sont venus voir Jésus qui s'est vraiment, qui est rentré dans une colère, mais dure, hein, parce que quand on voit ses propos, génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand aurais-je à vous supporter? C'est vraiment pas sympa, hein.
Avant que tu rentres dans ce commentaire, petite parenthèse, nous on aime énormément, avec Maud, tous les deux, quand Jésus n'est pas dans ces images, souvent les mamans, Jésus c'est un peu le tout gentil, un peu mièvre, etc., etc. Et Jésus à des mamans, eh ben, vraiment, il sait secouer, il sait nous ébranler, nous interpeller fortement. Et trop souvent, nous réduisons Jésus à des paroles un peu trop gentilles. Et effectivement, c'est ça que nous aimons dans cet évangile pour le couple, c'est qu'à un moment, il est à la fois toute tendresse, immense tendresse et amour, et à la fois, à la maman, il sait nous mettre des roustes, parce qu'on sait pas entendre, et qu'on a la nuque raide, voilà. Et là, pour la prière, eh ben, on a la nuque raide, et le Seigneur vient nous remettre en cause, et nous houspiller, et c'est bien, parce que nous avons aussi à être bousculés, parce que nous avons à nous convertir.
Voilà, donc les propos de Jésus, justement, c'est génération incrédule et pervertie. Donc on a cherché à travailler sur ces deux termes. Qu'est-ce que ça veut dire incrédule et pervertie? Et Jésus, évidemment, va guérir l'enfant. Il prend les disciples à part, hein, pour leur faire vraiment la leçon et qu'ils aient bien compris. Et il leur dit que la source de leur impuissance dans la prière, c'est la pauvreté de leur foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, nous avons en fait une difficulté majeure dans notre prière, c'est la foi. Est-ce que nous croyons ce que nous demandons au Christ? Est-ce que nous croyons qu'il peut le faire pour nous? Et quelle est la part de notre foi dans cette prière? Et c'est là où vraiment je crois qu'il faut qu'on travaille sur la demande, le contenu même de la demande, parce que la prière, souvent, nous la détournons à notre profit.
Alors, justement, pour éclairer, Maud, il y a des paroles de Jésus, justement, qui vont éclairer à d'autres moments de l'Évangile. Il éclaire davantage son propos, parce qu'il y a la question de la foi, mais il y a aussi à des moments parce qu'on demande mal, et on ne demande pas ce qu'il faut. Et Jésus dit, vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de vous dépenser pour vos passions. Ah, c'est des mots difficiles.
Oui, c'est dans l'épître de Jacques, justement, parce qu'il vient corriger une communauté qui, en fait, prie pour son confort personnel, autrement dit, pour ses passions. Donc, tiens, je vais prier parce que ce serait bien que je réussisse mes examens. Ah, je vais prier parce que ce serait bien que... Mais c'est pas ça, la prière. La vraie prière à laquelle Jésus nous invite, c'est ce que dit Jacques dans son épître, sur le même sujet, un peu plus loin. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Voilà, c'est le terme essentiel, c'est selon sa volonté. Donc la prière doit nous introduire dans le dessein de Dieu, voilà. Et non pas dans nos propres desseins.
Voilà, donc souvent dans la prière, nous détournons la prière, soit en menaçant Dieu, soit en le mettant à l'épreuve. Si tu fais pas ça, je pourrais pas le faire. Si tu fais ça, je ferai ci. On rentre dans du chantage, dans du calcul, c'est pas de la prière ça. On a des demandes égoïstes. Ça m'arrangerait que je te demande ça. Mon mari est désagréable, vraiment fait qu'il soit plus agréable. Mais c'est pour moi que je dis ça. Donc je suis pas à la racine de la prière. Donc en fait, dans cette interpellation-là, Jésus nous amène à creuser le pourquoi de notre prière. Et c'est que au lieu, par exemple, de prier pour qu'on réussisse son examen, il vaudrait bien mieux prier pour ce qui touche à ma propre conversion. C'est-à-dire, je vais prier pour que, dans cet examen, je sois au mieux de ma compétence, c'est-à-dire que j'aurai mis l'énergie qu'il faut pour me préparer à l'examen. Donc convertis mon cœur, Seigneur, et convertis-le pour que je sois dans l'humilité par rapport au résultat de cet examen. C'est là où le Seigneur peut nous exaucer, pas la baguette magique qui vient satisfaire nos caprices. Ça, c'est sûr que le Christ ne rentre pas dans ce jeu-là. Et alors nos prières sont inefficaces, et alors on ne comprend pas. Mais si nous apprenons, dans la grâce de l'Esprit-Saint, à discerner le cœur du problème, alors, si ce cœur touche à notre conversion, là, le Christ peut nous exaucer. Et c'est toute l'importance de ce discernement dans la prière. Pourquoi est-ce que je prie ? Est-ce que je peux apprendre à rentrer dans une prière oblative qui est celle du Christ, non pas ma volonté, mais la tienne ? Ça, c'est le summum de la prière. Et alors, à ce moment-là, elle est exaucée.
C'est pour ça que j'aime beaucoup à des moments ce propos qui dit « Quand vous priez vraiment dans la foi, ce que vous demandez n'est pas forcément, je dirais, obtenu, mais votre prière est toujours exaucée, dans le sens qu'au travers de l'événement qui se passe, le Seigneur va exaucer ta prière, c'est-à-dire qu'il va te parler au travers de l'événement. Il peut te conduire sur un chemin où il va t'éclairer, où il va te mener sur un chemin de conversion. Il va pouvoir te parler, t'enseigner à ton cœur. Même au travers d'épreuves, de difficultés, etc. Et on voit bien tout ce que ça peut effectivement, ce que ça peut évoquer par rapport aux familles, par rapport aux souffrances des uns et des autres, etc. Et effectivement, quand nous prions à des moments pour un enfant qui est malade, pour telle ou telle chose qui nous paraît injuste et tout, bah effectivement, et souvent de manière mystérieuse, effectivement, nous ne sommes pas exaucés, sûrement aussi pour des questions de foi, mais pour des choses qui sont mystérieuses, et puis en plus parce qu'il y a toute la liberté de l'homme, bien sûr, qui est derrière. Mais finalement, si nous regardons bien, au travers de notre prière, le Seigneur vient toujours nous exaucer, nous parler, peut-être le Seigneur nous exauce sur des points qui n'ont pas été, entre guillemets, prévus, que nous n'avions pas envisagés. Et c'est ça qui est toujours mystérieux dans ces fruits de la prière. On se retrouve dans quelques instants.
Du lever au couchant.
Voilà, nous reprenons cette deuxième partie de cet évangile pour le couple consacré à la prière. Donc nous étions en train de reprendre la parole de Jésus qui est si exigeante quand il se fâche contre les apôtres qui n'arrivent pas à guérir un jeune enfant par leur prière. Et donc ces générations incrédules et perverties. Nous avons donc vu que c'était une question de foi. Il faut avoir la foi en Christ, vraiment solide, et nous pouvons prier pour que cette foi grandisse. Et puis aussi, quand nous pervertissons notre prière et la détournons de la volonté de Dieu. C'est ce que nous répétons quand nous sommes dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. C'est vraiment la prière, je dirais, par excellence, que ta volonté soit faite en toute chose. Et c'est cet abandon-là que nous avons à demander dans la prière.
Voilà, donc Jésus, quand on reprend le texte que nous avons lu au début de cette émission, nous indique deux conditions pour que notre prière, et donc notre prière conjugale, porte du fruit. Se mettre d'accord et se réunir en son nom. Être accordé, se mettre d'accord et se réunir en son nom. D'abord, Maud, se mettre d'accord.
Alors, se mettre d'accord, pas une mince affaire dans un couple souvent. Mais là, il s'agit de s'accorder sur aussi le discernement de la prière. Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? Voilà, on a un enfant qui est pas bien, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Est-ce qu'on va demander au Seigneur qu'il aille mieux? Ou est-ce qu'on va simplement ensemble essayer de discerner? Seigneur, dis-nous là où nous, parents, nous avons à convertir peut-être notre comportement pour que notre enfant aille mieux, parce qu'il y a peut-être quelque chose dans notre façon d'agir avec lui qui fait qu'il a du mal et qui fait qu'il n'est pas bien. Donc, indique-nous le chemin de cette conversion. Et ensemble, on va prier pour ça, pour que ça réjaillisse en fruit pour cet enfant.
De même, des mamans, un enfant qui est dans un parcours difficile au niveau scolaire, etc., et on ne sait pas trop au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est un problème psychologique, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est un problème de comportement, d'éducation, et nous avons, voilà, il faut être accordé. À des moments, ça peut être source de division, de tension entre nous. Voilà. Et la prière doit nous réunir et nous unir. Même si nous avons, de manière légitime, peut-être des avis différents, des discernements différents, nous avons rentré dans l'intelligence pour être accordés. Comment notre prière peut être fructueuse si nous sommes divisés? Nous sommes, de par notre sacrement de mariage, de par notre nature, une seule chair. Au service d'une seule chair, du fruit de notre une chair, que sont nos enfants. Et donc nous devons être unis.
Voilà, et j'aime bien cette parole aussi qui est dans l'évangile. Quand tu vas te présenter à l'autel, si tu te souviens que tu as quelque chose contre l'autre, laisse ton offrande et va te réconcilier. Et alors tu viendras présenter ton offrande. Donc notre prière, comme une offrande, on sait que dans la liturgie c'est symbolisé par l'encens qui monte, elle doit justement d'abord passer par cette unité. Donc par le pardon mutuel, par l'écoute mutuelle. Il n'y a rien de pire que les prières scudes. Ce que j'appelle les prières scudes, c'est quand on règle ses comptes via la prière. Et ça, c'est épouvantable. C'est une
Seigneur,
perversion
je te demande,
totale.
Je te demande de venir convertir Maud, s'il te plaît. Voilà, c'est l'air de dire, mon Dieu, je t'en mets une sous un beau petit vernis spirituel, etc.
C'est du règlement de compte déguisé, peu importe. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une prière accordée. Donc nous avons à faire d'abord ce travail de communion. Parfois, c'est vrai qu'il faut prier ensemble pour obtenir cette communion. Mais si nous voulons discerner qu'est-ce que le Seigneur nous demande ce pourquoi le Seigneur nous demande d'intercéder, mais il faut déjà qu'on ait cette communion entre nous.
I need you like the rain.
Ouais, ça c'est quelque chose que nous avons beaucoup expérimenté, qui nous a beaucoup enseigné dans notre vie, c'est qu'à un moment, quand nous prions, la prière ne porte pas des fruits spirituels en nos vies et concrets dans nos vies, dans la mesure où nous sommes si difficiles d'être accordés dans la prière. Donc deuxième point sur lequel insiste Jésus, Maud, c'est se réunir en son nom. Quelle est l'importance de se réunir en son nom? Si on prie, pas prier Bouddha, on prie. Qu'est-ce que ça veut dire, se réunir en son nom?
Le nom est très très important dans la tradition biblique déjà, puisque même le nom de Dieu, les Juifs ne peuvent pas le prononcer, hormis certaines circonstances. Mais si jamais on peut, nous, prononcer le nom de Jésus, c'est que le fait de prononcer le nom de Jésus et d'être en son nom réunis, c'est déjà avoir une efficacité de son salut. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est au nom du Christ, au nom du sacrement de mariage qu'il nous a donné et qui nous unit, que nous faisons une demande. Et nous sollicitons le Seigneur pour quelque chose qui est évidemment primordial dans notre vie et au nom même de sa présence au milieu de nous.
C'est quelque chose que nous avons découvert vraiment de manière importante, et ça a été pour nous un palier important dans la prière, dans notre ministère de prière en tant que parents. Mais aussi vis-à-vis des frères, dans tous les différents engagements, mais aussi pour nous-mêmes, et l'un pour l'autre. C'est notamment vraiment pour des choses vraiment importantes, c'est vraiment au nom du Christ, au nom du Messie, au nom de son ministère, au nom de du don de l'Esprit, au nom de l'Esprit Saint, nous te demandons, Seigneur, ceci ou cela, etc. Que nous puissions vraiment nous introduire, le Christ a envoyé les apôtres, pas baptisés, c'est baptisés en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En son nom, pas baptisé simplement. Voilà. Et donc de pouvoir nommer les choses, c'est important. Nous rendons présent ici, maintenant, à cet instant, le mystère qui traverse toute l'histoire. Nous en faisons mémoire pour qu'aujourd'hui, les fruits de ce mystère du Christ, de l'Esprit-Saint, puisse toucher particulièrement un tel ou un tel, ou telle ou telle situation, voilà. Ou nous éclairer.
Et ça a même, effectivement, dans l'Église d'Orient, par exemple, été jusqu'à la prière du nom de Jésus, simplement répéter Jésus, qui habite nos cœurs, et parce que nous invoquons la présence de Dieu, il se fait davantage présent à nos vies. Et ça, je pense que c'est vraiment une efficacité très grande. De la même façon, on peut à ce moment-là rentrer dans cette fameuse prière du publicain ou du pharisien, qui est encore un autre exemple de cette efficacité de la prière. C'est la prière dans l'humilité, c'est-à-dire justement qui va toucher à la conversion de mon cœur. Je peux prier pour la paix, c'est extérieur. Mais si je prie par la paix en disant « Seigneur, fais de moi un être de paix, convertis mon cœur pour que je sois un être de paix », alors ma prière est encore plus efficace parce qu'elle va d'abord me changer. Avant de vouloir changer les autres, il faut aussi s'impliquer dans la prière.
C'est pour ça que c'est souvent d'ailleurs une dualité ou quelque chose qui est opposé, en disant la foi finalement c'est orgueilleux. Je prie dans la foi au nom du Seigneur et donc c'est orgueilleux. Et on dit alors sous prétexte de cela, c'est la prière du publicain et qui est vraiment la prière humble, mais du coup la foi elle est très faible. Et il n'y a pas opposition, souvent on les oppose et il n'y a pas opposition. Notre prière doit être dans une profonde foi et conviction, dans la foi au Christ qu'il peut faire, et à la fois, il faut que notre cœur soit profondément rentré dans l'humilité. Et profonde foi et profonde humilité ne sont pas contradictoires. Au contraire, ce sont deux conditions essentielles pour que fructifient nos prières.